La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de la compagnie des auteurs. Notre sujet aujourd'hui, l'écrivain autrichien Stefan Zweig. Stefan Zweig, toujours aussi aimé des lectrices et des lecteurs, réédition après réédition, adaptation après adaptation. Ses nouvelles, Amok, Lettre d'une inconnue, La confusion des sentiments ou 24 heures de la vie d'une femme, continuent de nous saisir aujourd'hui comme elles accrochaient déjà ceux qui les dévoraient au moment de leur parution dans les premières décennies du XXe siècle. Alors est-ce à cause de leur perfection formelle ou de leurs thèmes universels comme celui du secret ou de la passion amoureuse? Nous nous poserons la question demain avec le germaniste Jean-Pierre Lefebvre. Et dans la perfection de ses nouvelles se cache peut-être un perfectionnisme maladif, celui-là. Zweig, peintre des pulsions humaines, a souffert toute sa vie de profonde anxiété. Et il a cherché, grâce au travail de Freud, cet autre grand viennois, à mieux cerner l'inconscient. Zweig et la psychanalyse, ce sera le sujet de l'émission de mercredi avec Edmundo Gomez-Mango. Nous évoquerons également la correspondance importante de l'écrivain, avec notamment les autres écrivains Joseph Roth et Arthur Schnitzler. C'est Pierre Dezus qui nous en parlera mercredi toujours. Et puis, en ces temps d'incertitude sur la construction européenne, nous nous rappellerons qu'il existait de fervents amoureux de l'esprit du vieux continent, et cela bien avant Schumann et Monet. Zweig était de cela. Nous le verrons jeudi prochain avec Serge Niemietz. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, comme chaque lundi, c'est le moment du parcours biographique. Je reçois Catherine Sova, auteure née à Paris mais d'origine autrichienne, de nombreuses biographies d'écrivains, Robert Walser, Isabelle Hébrard et bien sûr Stefan Zweig, dont la vie, on le sait, s'est achevée dramatiquement. C'était au cours d'un exil au Brésil.
Je vis dans une petite ville, à 2 heures de Rio, dans la montagne, où l'air reste frais et respirable même dans les jours d'été. Nous avons loué un bungalow et c'est une négresse douce et animalesque qui nous sert. Je lis Balzac, Shakespeare et je ne vois que très rarement quelqu'un. Autour de moi, il y a les ondes interminables des forêts vierges. En face, j'ai un petit café fréquenté presque uniquement par les nègres, et je compte pour mesurer les heures le balancement des queues de leurs ânes qui portent les ananas et les bananes au marché. En été, il y a 2 mois, fashionable, avec des autos et du jeu. Puis cela disparaît par magie et nous sommes seuls de nouveau. D'ailleurs, Bernanos vit au Brésil dans un isolement semblable. La vie est très bon marché, excepté tout ce qui est luxe et importé. Ce qui m'opprime, c'est de ne pas avoir trouvé le courage d'entreprendre quelque œuvre de longue haleine. Et cela est dû au fait que je ne me sens pas chez moi, mais en voyage.
Un extrait d'une lettre de Stefan Zweig à Roger Martin Dugard qui date de 1942. Bonjour Catherine Sova.
Bonjour.
Alors cette lettre à Martin Dugard, dans laquelle il évoque, certes en même temps qu'une certaine solitude, tout de même, les douceurs du Brésil, le plaisir à être dans ce pays-là, on a du mal à croire, en l'écoutant, que c'est une lettre qui date de 11 jours seulement avant son suicide.
Oui, mais alors le terme qui est utilisé ici, c'est le terme de voyage, alors qu'en fait il s'agit d'un exil, évidemment. Donc on peut mesurer la force de ce terme et la difficulté que ça a entraîné pour lui. Il a beaucoup aimé le Brésil, tout en hésitant assez longtemps entre s'installer à New York ou s'installer là-bas. Il a été reçu comme une rockstar là-bas. Enfin,
il était déjà allé à New York, on en parlera peut-être.
Voilà, on y reviendra sans doute. Voilà. Et au Brésil, il trouvait le pays magnifique. Il s'est d'ailleurs employé à le décrire dans un livre. Ça, c'est la première difficulté qui est survenue, c'est-à-dire que la publication de ce livre qu'il a écrit pour vanter ce qu'il avait perçu de ce pays bigarré, formidablement beau et coloré, n'a pas été très bien perçu en retour par les Brésiliens, qu'ont senti une œuvre de commande. Et comme il y a eu une partie de son voyage de recherche qui a été financée par le gouvernement, le lien a été fait assez rapidement. Et ça a été une déconvenue pour lui, pour quelqu'un qui était gâté dans la littérature et qui avait l'habitude de publier sans ce type de critique, en tous les cas. Alors, les critiques étaient hautes, mais en tous les cas, pas celle-là. Donc, je crois que c'est quelque chose qui a contribué certainement à un certain recul, voire une interrogation.
Et donc il y a toujours une ambivalence, il n'y a jamais de vrai plaisir sans nuage, de bonheur sans mélange, on le sent un petit peu dans cette lettre. La vie de Stefan Zweig, c'est une vie pourtant de succès, une vie assez douce et une vie d'anxiété, de mélancolie.
Oui, c'est vrai, c'est une vie, il parle lui-même, son terme favori c'est la bile noire. Ce qu'il avait l'impression de sécréter, enfin donc c'était quelqu'un qui avait des accès de dépression très manifestes, qu'il a toujours soigné entre guillemets à sa manière par le fait de partir, par le fait de voyager, et cela déjà très jeune. Donc on peut tout à fait imaginer que au fil des années et au fil de sa vie et au fil des événements historiques, le voyage est devenu plus compliqué, et même au Brésil qui à un moment donné a durci ses frontières.
Alors, vous écrivez des biographies en grand nombre depuis de nombreuses années, vous en faites également pour la télévision. Ça n'a pas dû être évident d'écrire la biographie de Stefan Zweig parce que c'était quelqu'un d'assez pudique. Comment avez-vous réussi finalement à vous faire une idée du personnage alors que lui-même se confiait très peu ?
Oui, quelqu'un de pudique et quelqu'un de secret, ça sans aucun doute. Alors il y a énormément de témoignages qui existent sur lui, de gens qui l'ont rencontré, et un petit peu partout en Europe et dans le monde, puisque c'était donc un voyageur. Et puis je crois qu'il a confié beaucoup de choses au fil de ses lignes. Alors c'est toujours évidemment ça paraît toujours un cliché.
Il a fallu lire entre les lignes, c'est
voilà,
ça.
Voilà, il a fallu lire entre les lignes, particulièrement au fil de ses personnages féminins, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup de là qui est dit de sa part.
Pourquoi ?
Parce que c'est une sensibilité qui s'y trouvait bien. Et de la même manière, ce culte du secret qu'on retrouve d'ailleurs dans la structure de ces nouvelles qui sont toujours des récits enchâssés, c'est-à-dire on va s'adresser à quelqu'un qui, et donc ce faisant on tend l'oreille d'autant plus. Alors arriver à percer le mystère Zweig, c'est une vaste question, parce que je crois qu'il y en a beaucoup de mystères, et encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce qui explique le succès, qu'est-ce qui explique l'intérêt, qui ne désarme pas depuis tant d'années.
Vous avez une hypothèse peut-être?
Moi, j'en ai plusieurs, mais il y a une chose là-dessus que je voudrais faire remarquer, c'est que le succès est avant tout profondément français. C'est-à-dire, le succès n'est pas le même du côté des pays germaniques, qui ont toujours considéré Zweig comme un écrivain plutôt mineur, avec beaucoup de succès.
Et encore aujourd'hui, il ne revient pas sur le devant
de la scène.
Oui.
En Angleterre, je lisais récemment des articles, beaucoup plus ancien, où on le décrivait comme le Pepsi de la littérature germanique, donc quelqu'un qui mousse un petit peu et qui est peut-être frivole, mais en tous les cas dont on ne saisit pas toute la profondeur. Et alors, la raison de ce succès en France est certainement liée à la traduction. Il a eu un traducteur, il a eu un allié qui s'appelait Alzirella, qui était lui-même un personnage assez intéressant, qui s'était illustré par la traduction d'un livre de remarques qui s'appelle « À l'Ouest, rien de nouveau », qui était un livre important pour son époque. Et ce traducteur qui s'est lié d'amitié avec Zweig a certainement lissé un peu une langue très très fleurie, pour dire le moins. Et c'était en accord avec Zweig, qui lui disait d'aller au but. Et donc, on a quelque chose en français qui se lit mieux, qui est plus, qui est moins fleuri, qui est moins...
Moins kitsch, moins ce kitsch, mot a été employé souvent.
Moins kitsch. Les traducteurs que vous aurez vous diront qu'à quel point parfois il y a des choses un petit peu curieuses dans la structure de la phrase. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se laisse emporter lui-même, peut-être par le flow, etc. Et en même temps, ça le rend sympathique aussi, cet aspect-là. Mais c'est vrai que ça a donné un ça a attiré un lectorat certainement très féminin, qu'il est toujours, parce que il y a cette impression de découvrir, ou en tous les cas de lever le voile sur la psyché, sur les méandres compliqués de nos interrogations, de nos peines de cœur, quelles qu'elles soient, etc. Et ça, il le fait très très bien, tout en restant quand même à la surface, c'est-à-dire c'est quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire il a été très conscient, et pour cause de la venue de la psychanalyse, puisque il a rencontré Freud assez tôt.
On en parlera beaucoup.
Vous allez en parler, voilà, c'est ça. Et à qui il a rendu hommage, d'ailleurs, dans une hagiographie, on ne peut pas dire autre chose. Et donc, ça parle beaucoup de sexualité frémissante, de sentiments, mais en restant quand même toujours à une espèce de surface un petit peu plus facile, je dirais. Enfin, bon, c'est difficile parce que quand on utilise ce type de vocabulaire, on est toujours dans une critique qui paraît évidemment facile pour quelque chose qui marche. Donc,
oui, peut-être que s'il était resté un écrivain qui ne vendait aucun exemplaire, on aurait sur lui un œil différent aujourd'hui.
Voilà. Il y a ça, il y a le fait aussi que beaucoup de ses contemporains ont eu aussi des réactions très certainement de jalousie, parce qu'il prenait beaucoup, beaucoup de place dans le panorama littéraire, en tous les cas, de l'époque.
Alors, vous avez écrit une biographie de Stefan Zweig, oui. Mais lui aussi écrivait des biographies. Il en a écrit de nombreuses. Est-ce qu'il cherchait à percer le secret des gens dont il racontait la vie?
Oui, mais alors, toujours, c'est vrai, c'est absolument le fil conducteur de ses biographies. Et en même temps, on va dire qu'il ne s'embarrasse pas toujours. Il n'a pas un souci, en tous les cas, de vérification absolue. C'est quelqu'un qui, aussi, là, privilégie une certaine forme de lyrisme quand il parle de ses personnalités, que ce soit Fouché, Marie-Antoinette, Magellan, etc. Ce qui fait qu'on a une lecture, en tous les cas, on a une idée assez précise du personnage quand on le lit. Mais il ne faut pas compter sur lui pour donner des sources, et puis surtout, à chaque fois, il a une théorie sur laquelle il va s'appuyer, et il ne va jamais faire jouer le jeu des possibles, en fait.
Et selon vous, quelle est la personne qu'il admirait le plus et dont il aurait fait la biographie qu'il aurait finalement le plus intéressé et qui pourrait faire un portrait aussi de Zweig lui-même?
Alors, il a deux, enfin, celle qu'il n'a pas réussi à terminer, c'était Balzac, et c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Je pense qu'il a écrit sur tous les gens qu'il aimait. En fait, on parlait de Freud tout à l'heure, on a parlé, il a les écrivains de son époque sur lesquels il avait quelque chose à dire, il l'a dit d'une manière ou d'une autre. Et quand il n'a pas pu le faire parce que l'époque ne l'a pas permis ou les gens étaient encore en vie, il l'a fait. Il a très souvent, par exemple, tenu des discours funéraires, enfin, à la mort de certaines personnalités, comme Rilke, justement, comme d'autres personnes qui sont disparues, en tous les cas, trop tôt. Et à chaque fois, avec beaucoup de sensibilité dans son approche. Je pense que quand il voyait les gens, il avait une idée de qui il avait affaire.
La compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de Stefan Zweig avec sa biographe Catherine Sova. Zweig, qui est né à Vienne le 28 novembre 1881 dans une famille de la grande bourgeoisie juive, Catherine Sova.
Oui, tout à fait. Il arrive dans un Vienne qui est complètement remodelé à l'époque, puisque c'est l'époque de... En 1857, on a démantelé les fortifications et ça a été le début de cette construction du ring que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc il vient il naît quelques années après la fin de tous ces travaux absolument de grande importance. La famille est aisée, le père, du côté paternel, il y a une fabrique de tisses de textiles. Qui va assurer toute sa vie, hein, de certains revenus. Il n'en aura pas à se préoccuper, s'en préoccuper. Il a un frère aîné qui lui va reprendre l'affaire familiale. Et du côté de sa mère, c'était une famille de banquiers qui était même banquier auprès du Vatican. Donc là, il y a une famille où y a, l'argent n'est pas un problème et où il règne une certaine culture.
Mais entre les deux parents, le père et la mère, il y a une très grande différence de personnalité et de sensibilité aussi.
Oui, absolument. On sent ça, pour le coup, il y a beaucoup de passages dans certaines de ses nouvelles qu'il raconte. Le père est un personnage un petit peu prudent, qui a des talents, qui parle plusieurs langues étrangères, qui joue du piano, mais qui veut mener ses affaires avec la plus grande des prudences. Son mot d'ordre, c'est « safety first », c'est vraiment toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger à venir ou quoi que ce soit. La mère est plus frivole, la mère adore sortir, la mère adore s'amuser et brille peut-être par son absence pour le petit garçon qui doit être à l'époque. C'est raconté un petit peu, par exemple, dans la nouvelle « Brûlant secret » où on sent à un moment donné qu'il aimerait tellement être proche de cette mère qu'il trouve si magnifique et si attirante.
Oui, vous racontez qu'il vous fait penser à Edgar, justement, de « Brûlant secret ». Pourquoi
oui.
Ce personnage?
Parce que là, on sent le petit garçon déjà pétri d'idéal et tout à fait... sensible et qui n'arrive pas en tous les cas à franchir les limites vers le monde adulte et qui préfère à un moment donné s'en aller parce qu'il n'y parvient pas.
Alors dans Brûlant secret, on peut lire cette phrase à propos d'Edgar, qu'il ne paraissait jamais garder la mesure, il parlait de chaque personne et de chaque objet avec soit de l'enthousiasme, soit une haine si violente qu'elle tordait son visage et lui donnait un aspect méchant et hideux. Donc, est-ce que ça correspond ça à Stefan Zweig tel que vous l'imaginez,
Catherine? Alors, peut-être que bon, le portrait est un peu chargé là pour ce qu'il a pu être en tant que jeune garçon.
Non, mais c'est la fougue, quoi, c'est la passion, c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Il était colérique, paraît-il.
Oui, absolument colérique et en tous les cas, déjà un enfant certainement gâté. On trouve aussi beaucoup de choses, d'éléments dans ses mémoires, Souvenirs d'un Européen, enfin Le Monde d'hier précisément, où il raconte à quel point, comment les enfants étaient traités à l'époque, c'est-à-dire on les mettait beaucoup de côté, ils devaient suivre tant bien que mal, on leur demandait pas leur avis toujours.
Ouais. Alors un extrait justement du Monde d'hier.
Vivre et laisser vivre. C'était la maxime de Vienne. Les cafés étaient une institution, c'était des sortes de clubs, oui, mais accessibles à tous, où chacun pouvait demeurer des heures entières à discuter, à écrire, à recevoir sa correspondance, à lire un nombre illimité de journaux. Rien n'a peut-être davantage contribué à l'ouverture d'esprit du Viennois que cette facilité qu'il avait de se documenter au café, sur les événements internationaux, et puis de les discuter ensuite dans un cercle d'amis. On croyait dans la religion du progrès. La justice se faisait plus douce. L'humanité était en marche. Le monde vivait son âge d'or.
Extrait donc du Monde d'hier, l'autobiographie de Zweig, lu ici par Jérôme Kircher. C'était à Avignon le 15 juillet dernier. On peut toujours d'ailleurs réécouter sur le site des fictions de France Culture l'intégralité de ce texte. C'était une réalisation d'Alexandre Planck. On entend bien Catherine Sauva dans cet extrait, l'atmosphère viennoise, alors plus vraiment de l'enfance, mais de l'adolescence et de la jeunesse de Stefan Zweig, dans les cafés, à lire tous les journaux du monde entier.
Oui, c'est une ville absolument de culture, ça c'est très très important. C'est une ville qui adore, il en parle aussi dans d'autres passages, qui adore son théâtre. Ils sont fous de toutes les pièces qui peuvent être représentées à l'époque. Les gens, il raconte lui-même qu'avec ses amis de collège, il allait de temps en temps, ils allaient chez le coiffeur d'acteurs, de manière à récupérer les quelques mèches qui auraient été tombées, qui seraient tombées par terre, etc. Ils essaient d'obtenir des informations sur la prochaine coupe vestimentaire de l'un l'un d'entre eux.
Ça, il pouvait demander à sa mère parce qu'elle était très, très au courant de tout ça.
sans doute. Et il y a aussi, il y a une vraie effervescence. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on est quand même dans un empire à l'époque qui est dirigé encore par un vieux monsieur qui est l'empereur François-Joseph, presque un vieillard, qui est lui-même hostile aux nouveautés et qui a juste envie d'essayer de maintenir cette espèce de bulle comme ça intacte sans qu'il y ait trop de changements qui surviennent. Mais ça vient aussi dans les cafés, comme vous disiez, avec certains auteurs, parce qu'il y a, à l'époque un mouvement qui s'appelle Jung Wien, donc la jeune Vienne, dont certains représentants sont Schnitzler, que Zweig admire, et déboule à ce moment-là, quand Zweig est lui-même à peine 14-15 ans, un jeune prodige qui n'en a guère que 16, qui est Hoffmann Stahl, qui lui déjà écrit des poésies habitées que tout le monde admire et auxquelles ces jeunes garçons souhaitent ressembler, bien sûr.
Voilà, et c'est pour ça qu'à 15 ans, justement, en partie pour ressembler à Hoffmann Stahl, on pourrait citer aussi Otto Weininger, qui publie également très jeune, qui va mourir très jeune à 23 ans, se suicider. Et à 15 ans, donc, dans les journaux et les revues, on peut lire les premiers poèmes de Stefan Zweig.
Voilà, exactement. Il publie très tôt, il n'a pas tellement de mal à publier. Il y a quelques petits remous autour de ces publications. Et bon, maintenant, c'est peut-être pas ce qui est resté. Son premier recueil s'appelle Les Cordes d'Argent. Et ensuite, il y a une autre histoire qui s'appelle Dans la Neige. C'est peut-être plus anecdotique, on va dire, dans l'ensemble de l'œuvre.
Donc, tous ces gens-là aiment bien aller éventuellement chez le coiffeur, dans les cafés. Ils vont pas beaucoup au gymnase, en revanche. Non. Ça, c'est sûr.
Non, là, le problème qu'il dénonce, effectivement, c'est le rapport au corps, c'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est curieux, puisqu'on leur demande même à ces jeunes de faire plus vieux qu'ils ne le sont. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre tout de suite un air un petit peu pénétré, si possible porter une barbe. Plus on a l'air vieux...
Les rides sont fêtées.
Voilà, c'est ça, c'est curieux. Mais en revanche, effectivement, la femme est une sorte d'île lointaine, inaccessible, et ils n'ont guère le choix que de recourir à ce que Schnitzler décrivait comme les cousette, enfin, pour donner une sorte d'épithète plutôt gracieuse. Mais il raconte par exemple qu'un soir chez eux, une de ses tantes était arrivée en criant et en pleurant parce que c'était le soir de sa nuit de noces. Et à sa grande stupéfaction, son mari avait essayé de la déshabiller. Elle avait été épouvantée par ce qui lui arrivait. Elle était rentrée chez elle aussitôt que possible. Donc voilà le rapport. Vous citiez aussi Weininger. Enfin, on est dans ces interrogations-là aussi.
Alors tout cela, évidemment, un vieil empereur qui n'aime pas tellement ce qui se fait de nouveau, qui ne favorise pas la jeunesse, ça peut éventuellement donner envie de partir. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, des jeunes Viennois de l'époque à vouloir partir pour Berlin, et c'est ce qu'il fait dès le printemps 1902, Catherine Sauvard.
Oui, il veut partir parce que justement, il trouve Vienne suffisamment sclérosée. Il aurait pu essayer certainement de s'intégrer davantage au mouvement littéraire ambiant. Lui, il préfère se tourner vers ce qu'il imaginait plus vers une forme de modernité. Et donc il voyage déjà, il va partir à Berlin, et ensuite il va se diriger assez rapidement vers la France. Zweig restera toute sa vie un francophile, hein, qui parlait très bien le français, et un très fin connaisseur de la littérature française.
Berlin, comme le personnage de La Confusion des Sentiments, qui lui aussi, alors il est allemand déjà, mais il part à Berlin faire ses études, et là il vit une année ou deux de débauche, jusqu'à ce que son père arrive, et là, quand son père arrive, il se sent très mal, parce qu'il a trahi, au fond, la confiance que son père avait mis en lui. Est-ce que vous voyez là un parallèle possible dans cette première partie de La Confusion des Sentiments, où justement on sent vraiment cette culpabilité très forte du personnage? Est-ce que vous voyez là un parallèle possible avec Zweig qui part à Paris et qui va lui aussi quand même jouer de sa séduction, travailler un peu moins qu'il n'aurait fallu?
Oui, mais le parallèle est à faire aussi absolument avec l'époque de manière générale, c'est-à-dire est-ce qu'on ose être soi-même et braver des interdits qui sont forts, hein, quand même. L'interdit paternel spectacle, bien sûr, mais oser s'affirmer comme un artiste, comme un écrivain, etc., ce n'était évidemment pas chose facile. Et accepter une certaine culture, en tous les cas du corps, et encore moins, Paris va lui permettre ça. À Paris, il va avoir des relations beaucoup plus faciles avec les femmes. Alors, ce qu'il va nommer lui-même ses épisodes, parce qu'il a toujours eu recours à ces termes-là, c'est-à-dire quand il rencontrait des jeunes dames avec lesquelles les choses se nouaient, il appelait ça ses épisodes. Mmh. Ce qui laisse présager de, du peu d'intérêt finalement, enfin que ça prenait dans sa vie. Mais Berlin est déjà effectivement un premier pas dans ce sens.
Mais cette idée de la culpabilité, vous la ressentez à propos de Stefan Zweig?
Oui, toujours. Il y a quelque chose chez lui. Il y a toujours quelque chose chez lui qui est bridé en tous les cas, qui aimerait s'exprimer, qui n'y parvient pas. Et alors bon, là, sans rentrer dans trop de connotations psychanalytiques, etc., la culpabilité vis-à-vis familiale est certainement réelle. Bon, il va régler ça à sa manière, parce qu'il va terminer un doctorat quand même. Il n'a que 23 ans quand il le termine. Il écrit sa thèse sur Ten.
Une fois que je passe et que j'étais à Salzbourg, il m'a demandé de venir lui faire une petite visite. Il avait une maison charmante tout en haut d'une colline. Il fallait grimper, je me souviens, pour aller jusque chez lui.
C'est pas le Kapuzinerberg ?
Kapuzinerberg, oui, c'est ça. Et alors, là-haut, il avait beaucoup de souvenirs, et presque des reliques, par exemple. Je ne sais pas, quelque chose de... la plume d'oie, alors c'était servi Beethoven pour écrire sa musique ou des choses de ce genre, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de, une grande collection de livres. Et alors, ce qui m'avait beaucoup, après sa mort, j'ai pensé à toutes ces choses et je me suis rappelé, j'ai revu le personnage. Il était extraordinairement aimable, comme sont les Autrichiens, n'est-ce pas? Une grande amabilité, une grande courtoisie. Et en même temps, il y avait une certaine tristesse chez lui, mais c'était même visible dans ses yeux.
Extrêmement aimable, comme tous les Autrichiens, Catherine Sova. C'était Julien Green, qui a bien connu Stefan Zweig. Est-ce que vous souscrivez au portrait qu'il fait de lui?
Absolument, ça correspond à toutes les descriptions qu'on en a faites, c'est-à-dire quelqu'un qui était toujours à la fois mélancolique dans son abord, réservé et parfaitement affable. Peut-être toujours sur la retenue. Ce qui est très étonnant aussi chez lui, c'était sa capacité de séduction vis-à-vis des femmes, enfin telle qu'elle a été rapportée. Et en même temps, il avait toujours l'air de s'en tenir à l'écart, comme s'il avait préféré la compagnie des hommes.
C'est ce qui la compagnie amicale.
La compagnie amicale des hommes.
Des hommes. Mm-hmm. Contrôler, voire tenir à distance tout sentiment un peu vif. C'est vous qui écrivez ça,
oui,
dans votre biographie. Vous êtes d'accord avec vous-même?
Oui, encore. Parfois, on peut moduler un peu, mais là encore, oui, tout à fait.
Alors, ces années de jeunesse, on a commencé de l'évoquer, c'est des années de voyage. Il a l'âme vagabonde.
Oui, il part beaucoup, donc on parlait de la France tout à l'heure, et ensuite la Belgique. La Belgique, il va se passer quelque chose d'important, ça va être la rencontre d'un de ces... de ses premières figures tutélaires dans sa vie, qui est le poète Émile Verhaeren, qui va jouer un grand rôle, en tous les cas, d'identification au début pour lui. Il voit en lui une sorte de Walt Whitman européen. Enfin, il a beaucoup d'admiration pour son œuvre.
Qui n'est pas tellement réciproque, cette admiration.
Qui est, pour l'instant, à l'époque où ça se passe, il est très jeune. Verhaeren est content d'avoir un admirateur, on va dire, qui va lui faciliter d'ailleurs son entrée sur le sol allemand, en tous les cas, puisqu'il va organiser pour lui et comme pour tous les gens, parce que ça aussi, c'est une composante du caractère, de la personnalité de Zweig, c'est qu'il s'est toujours beaucoup occupé des gens qu'il aimait, c'est-à-dire qu'il facilite leur publication à l'étranger, il organise des conférences, il les fait connaître, il parle à tout le monde, enfin, c'est un activiste des gens qu'il aime, en tous les cas, et ça, c'est assez remarquable. Il a vraiment fait beaucoup, il a beaucoup contribué et beaucoup aidé.
Et puis Romain Rolland en France.
Romain Rolland ensuite. Alors ensuite après Verhaeren, pour terminer à peu près la description de ces figures qui vont jouer un grand rôle pour lui, il y a Freud. avec lequel il va correspondre et qu'il va rencontrer. Et ensuite, il y aura Romain Rolland, exactement, qui va être extrêmement important, alors qu'il appelle cher maître, au départ, avec beaucoup de fougue et beaucoup d'admiration, jusqu'à ce que Rolland lui dise un jour, on n'a pas tellement d'années d'écart, donc essayons d'être juste un peu plus mesurés, etc.
Il manquait peut-être un peu de simplicité. Ce que vous pouvez lui reprocher également, un autre écrivain que vous connaissez bien, Arthur Schnitzler.
Oui, c'est pareil. Alors, pour Schnitzler, il va faire aussi beaucoup. C'est-à-dire, Schnitzler a été très connu, était joué au théâtre, était important à Vienne. Mais de sa propre confession, disait qu'il n'était pas formidablement doué pour toutes les tractations éditoriales et d'argent. Et Zweig va s'en occuper en lui disant, mais non, vous ne demandez pas assez, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, etc. Mais Schnitzler l'a toujours maintenu à bonne distance, on va dire. Et dans ses journaux, il dit même que quand il fait des rêves de Zweig, il l'imagine comme ça, traversant, le venant vers lui, et c'est quelque chose pour lui dont il cherche en tous les cas à se préserver le plus possible. Donc il inquiète en fait, il inquiète même par son bon vouloir, c'est dire.
Oui, il est assez mal compris, et vous parlez d'ailleurs des deux images au fond de Stefan Zweig, parce que auprès du grand public, il connaît le succès, mais dans le privé, il a du mal à faire vraiment comprendre quelle est sa personnalité. Il est perçu comme un mondain, il est perçu comme un arriviste.
Exactement, exactement. Et on le critique pour ça, alors que c'est quelqu'un qui a envie d'être seul et de travailler et d'écrire, chose qu'il a du mal à faire, puisqu'il est toujours invité partout, à participer, à se montrer, etc. Mais dans toutes ses lettres, par exemple, avec celle qui est devenue sa première femme, Frédéric, il dit toujours qu'il aimerait juste avoir un endroit où se poser et qu'on arrête de le solliciter dans tous les sens. Mais c'est la différence entre ses souhaits et la réalité. Mais certainement, c'est un mondain aussi, parce qu'il a l'ampleur de sa correspondance est colossale. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a cessé. C'est un graphomane fou. Bon, si ce n'est qu'il dictait la plupart du temps, mais c'est quand même.
Et pourtant, ça l'ennuie aussi d'écrire.
Ça l'ennuie parce que je crois que quand on mène ce type de correspondance avec autant de personnes, et autant de lettres, autant de longues lettres comme il le faisait, enfin qui sont des lettres de considération à la fois personnelles et qui montrent toujours beaucoup l'empathie qu'il éprouvait pour les gens. Il s'intéressait, il lisait, il prenait la peine pour les écrivains qu'il connaissait de lire les livres quand ils étaient publiés, de leur envoyer un petit mot. Enfin, on sent quand même un vrai souci amical. Qui est rare hein, chez la plupart des gens. Et avec ses écrivains, d'ailleurs, il a aussi essayé de les... Quand il a créé une nouvelle collection chez Insel, dans la maison d'édition où il était lui-même édité, il a tout fait toujours pour aider les éditions des uns et des autres.
Et là, on retrouve peut-être la culpabilité de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. On sait qu'il a cédé à Richard Strauss, dont il était le librettiste, l'ensemble de ses droits contre une somme qu'il va verser à des écrivains autrichiens dans le besoin.
Oui, 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 oui. On parlait, vous avez mentionné tout à l'heure la correspondance avec Joseph Roth. Joseph Roth habitait à Paris, donc à un moment donné, il est venu à Paris. Il était dans le besoin, dans un vrai besoin. Sa femme était malade. Il vivait de ses piges et de ses livres, c'est-à-dire donc très mal. Et Zweig a vraiment fait beaucoup pour lui. Il lui a envoyé de l'argent de manière permanente. Il l'appelait d'ailleurs mon cauchemar bien-aimé. Donc ça vous dit le type de rapport qu'ils avaient tous les deux, qui est finalement assez... Alors pareil, toujours critique de Roth par rapport à Zweig, alors que Zweig fait beaucoup.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
15h33 sur France Culture, Catherine Sauva. Nous voilà rejoints par Pierre Croce pour notre désormais célèbre, disons-le, séquence en compagnie des revues.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Pierre, ravi de vous retrouver en cette rentrée. L'été vous a convenu, il était bon, vous vous êtes bien reposé.
Beaucoup, je veux beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts. J'ai essayé de rattraper mon retard de la compagnie des auteurs.
Bon, on vous interrogera hors antenne pour savoir si vous dites vrai. Première émission de la saison, vous avez souhaité nous parler de littérature étrangère, Pierre.
Alors oui, on parle beaucoup de la rentrée littéraire française, de Nos Tombes, de Véronique Ovaldé, de Karine Thuil, à juste titre. Mais la rentrée littéraire concerne également la littérature étrangère. Il y a à peu près 560 fictions qui vont déferler dans les librairies jusque fin octobre à peu près. Et parmi ces titres, il y a 197 qui sont des traductions. Et alors principalement, d'ailleurs, c'est un fait intéressant, traductions d'auteurs américains. Alors peut-être n'est-ce pas étranger à la tenue du Festival America qui se tient tous les deux ans à Vincennes et qui ouvre ses portes justement le 8 septembre et dont Babelio est partenaire.
Et alors quels auteurs est-ce qu'on pourra retrouver au Festival America ?
Alors c'est à peu près une cinquantaine d'auteurs qui sont attendus, principalement donc des auteurs nord-américains, mais pas seulement. On va aussi retrouver par exemple l'auteur jamaïcain Marlon James qui a reçu le Man Booker Prize en 2015 pour son livre Brève histoire de sept meurtres, ou encore le Canadien Joseph Boyden. Mais bon, c'est tout de même la fine fleur des auteurs nord-américains qui sera majoritairement présente pour le festival. Alors il y aura aussi des auteurs de premiers romans comme Tom Cooper avec le roman noir Les Maraudeurs, ou Emma Klein, auteur de The Girls. C'est un roman sur le thème de la secte de Charles Manson et qui fait énormément parler la presse et les lecteurs.
Et le thème du festival cette année ?
Alors, il n'aura échappé à personne qu'il y aura des élections en novembre aux États-Unis avec deux candidats diversement appréciés. Donc évidemment, cette édition sera très en prise avec l'actualité, avec la situation économique et sociale des États-Unis. Donc on va retrouver des tables rondes autour de Black Lives Matter, par exemple, de l'Amérique d'Obama et de l'avenir du pays. À côté de ça, bien sûr, il sera question de littérature principalement, des grands mythes américains, de la pop culture. Donc j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une centaine de rencontres à peu près qui seront programmées tout au long du festival.
Alors j'imagine, Pierre, que la rentrée littéraire pour vous à Babelio, c'est un événement important pour un site dédié aux livres où il est tous les jours question de littérature.
Oui, alors si nos membres lisent à peu près toute l'année, ils lisent pas particulièrement aujourd'hui, mais il y a quand même des ouvrages qui sortent pour la rentrée, donc qui étaient attendus par les lecteurs. Alors le problème, c'est que les lecteurs reprochent souvent à la presse et aux médias de ne s'intéresser qu'à certains livres ou à certains auteurs. Alors nous, on a une petite idée, on a lancé un grand challenge collectif, un défi collectif sur le site. L'idée, c'est de chroniquer ensemble la totalité des livres de la rentrée littéraire.
Vous avez de la chance, il y en a un peu moins que d'habitude.
Il y en a un peu moins que d'habitude, c'est vrai. Mais pas de beaucoup, mais c'est alors, au final, c'est 645 titres, donc ça concerne la littérature française, étrangère et les essais. Donc on a fait la liste et vous pouvez vous inscrire pour chroniquer le livre qui vous intéresse. Donc voilà, je vous invite à participer en vous rendant sur Babelio.
Et vous avez déjà remarqué des tendances qui se dégagent en cette rentrée, Pierre ?
Oui, alors il y a plusieurs romans qui ne seront pas forcément dans les meilleures ventes, mais qui ont un thème commun, c'est celui de la peinture ou des grands peintres. Plusieurs auteurs se sont intéressés, comme Jean-Michel Guénassia et Frédéric Pajac, à Van Gogh. Michel Bernard s'est intéressé à Claude Monet, Françoise Cloarec à Pierre Bonnard. Donc c'est parmi d'autres exemples. Il y a aussi le cas de Johann Sfar, qui défend un titre pour cette rentrée. C'est un livre qu'il a consacré à son père, Comment tu parles de ton père. Mais Johann Sfar, on le retrouve également à l'espace d'Ali. Le dessinateur, romancier, cinéaste y expose ses dessins aux côtés des sculptures de Dali. En fait, il s'est inspiré de ses œuvres pour créer une sorte de dialogue entre eux deux. Donc voilà, ce sera très onirique. Le titre de l'exposition est d'ailleurs Une seconde avant l'éveil. Et donc c'est à partir du 9 septembre et c'est à l'espace d'Ali.
Catherine Sauva, c'est la littérature américaine toujours qui est à l'honneur dans les rentrées littéraires année après année. Vous regrettez que le domaine allemand soit au fond assez oublié ? Est-ce que vous avez une explication d'ailleurs pour cela ?
Elle est bien difficile celle-là, non ? Et d'autant plus que les Français sont quand même très lus en Allemagne. Donc
ah oui,
c'est un
davantage dans l'autre sens, oui, ça fonctionne
ça,
mieux
ça, oui, 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 non, je crois que les habitudes sont difficiles à changer. Je ne pense pas que ce soit une histoire de qualité, en tous les cas. Je pense à, par exemple, à un prix Nobel allemand récent, qui est Elfriede Jelinek, par exemple, qui est un auteur qu'on a connu peut-être plus par le film qui en a été tiré, ça remonte déjà assez loin, La pianiste, mais qui a une œuvre tout à fait intéressante. Donc,
la littérature allemande est assez présente sur Babelio, pour le coup, il y a beaucoup de lecteurs de littérature allemande.
Bon, voilà une bonne chose.
Rendez-vous donc sur Babelio. Merci Pierre Croce. Et pour faire des comptes rendus de livres que vous lisez et lire ceux des autres, rendez-vous donc sur babelio.com. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous sommes avec Catherine Sauva qui nous raconte la vie de Stefan Zweig, l'écrivain autrichien qui a si bien su raconter notamment les passions amoureuses.
Mon enfant est mort hier, 3 jours et 3 nuits. J'ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et tendre existence. Mon enfant est mort hier. Maintenant, je n'ai plus que toi au monde. Que toi, qui ne sais rien de moi, et qui, à cette heure, joue peut-être sans te douter de rien, ou qui t'amuse avec les hommes et les choses. Je n'ai que toi, toi qui ne m'as jamais connu et que j'ai toujours aimé. C'est à toi seul que je veux m'adresser. C'est à toi que pour la première fois je dirai tout. Tu connaîtras toute ma vie qui a toujours été à toi et dont tu n'as jamais rien su. Mais tu ne connaîtras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu n'auras plus à me répondre. Je veux te révéler toute ma vie. Cette vie qui véritablement n'a commencé que du jour où je t'ai connue. Lorsque tu arrivas, j'avais 13 ans. Et j'habitais dans la maison que tu habites encore. Dans cette maison où tu tiens maintenant entre tes mains cette lettre, mon dernier souffle de vie. J'habitais sur le même palier, précisément en face de la porte de ton appartement. C'est depuis cette seconde que je t'ai aimée. Je sais que les femmes t'ont souvent dit ce mot, à toi, leur enfant gâté. Mais crois-moi, personne ne t'a aimé aussi fort, comme une esclave, comme un chien, avec autant de dévouement que cet être que j'étais alors, et que pour toi je suis toujours restée.
Un extrait de « Lettre d'une inconnue », le récit d'une passion, non partagée, mais tout de même d'une passion, lu ici par Dominique Raymond. Vous dites, Catherine Sauva, que toute l'œuvre de Schweig pourrait presque se résumer à cette thématique-là, cette thématique de la passion.
Oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, sur « Lettre d'une inconnue », c'est l'histoire d'un écrivain dont on donne juste une initiale et qui ressemble à s'y méprendre à un certain Stefan Zweig.
Enfin, en quoi ça.
Dans son, c'est d'ailleurs assez critique et assez acerbe, là, cette espèce d'auto-image, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui ne remarque rien, en fait, qui est tellement occupé par lui-même. Il est pris par ses voyages, par ses collections, par ses livres, par son travail, et donc il ne remarque pas cette petite jeune fille qui est à côté, qui grandit, qui devient une belle jeune femme avec laquelle il a une première histoire une fois, et puis ne la reconnaît à nouveau pas. Donc ça pourrait être effectivement quelqu'un, ça pourrait être lui. Et,
donc il s'en veut de ne pas suffisamment prêter attention au monde.
Oui, on retrouve ça beaucoup dans la correspondance avec sa première femme, où souvent il se confie. Effectivement, il y a un très joli volume de correspondance qui s'appelle « L'amour inquiet », d'ailleurs. Le titre est bien choisi. Et où il dit qu'il est... il y a tout ce côté frémissant chez lui et en même temps profondément parfois indifférent. C'est-à-dire, quand il rencontre d'ailleurs celle qui va devenir son épouse et qui va jouer quand même un grand rôle pour lui, il admire ce qu'il appelle son univers, il admire sa manière de fonctionner, sa manière de parler, sa manière de... C'est une femme qui écrit d'ailleurs. Et donc, mais en même temps, il est toujours... Il la tient beaucoup à distance. Et c'est comme ça qu'il arrive un petit peu à se... Toute sa vie, c'est quelqu'un qui jouera toujours de ce rapprochement, de cette distance. Il a besoin de ça. Quand les gens lui sont trop près, c'est insupportable.
Et d'ailleurs, dans La Nuit Fantastique, l'une de ses nouvelles, il fait dire à l'un de ses personnages « Ma meilleure jouissance érotique était de susciter chez les autres ardeur et trouble au lieu de m'échauffer moi-même ». C'est exactement ça.
C'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui et quand il se confie, lui, il y a quelques. On n'a pas tous les journaux de Zweig. Certains ont disparu ou il les a détruits. Enfin, et il dit à un moment donné, ma virtuosité dans la séduction m'effraie. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'à un moment donné, il est d'abord quand il est reconnu en tant que Stefan Zweig, les choses sont faciles. Mais même quand c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui tout de suite est dans une forme de séduction, donc dont il ne sait pas toujours que faire. Oui, dans la forme de ramener une femme chez lui. Il raconte par exemple qu'un soir il a vu une femme, il a eu aucun mal à la persuader de le suivre chez lui, mais enfin après il a surtout très très envie qu'elle débarrasse le plancher le plus rapidement possible, donc c'est quelque chose de toujours ambigu chez lui.
Alors il va quand même se marier avec Frédéric, vous en parliez, Frédéric von Wintermitz, qui pourtant est déjà marié quand ils se rencontrent, elle a même deux enfants, oui. Et vraisemblablement il va être touché par elle, c'est peut-être même une sorte de mère qu'il cherche à travers Frédéric.
Oui, elle reste, ce type de rapport restera toute leur vie, très certainement. Ils sont, elle a un an de moins que lui, c'est tout, et donc déjà deux filles qui vont aussi jouer un certain rôle dans sa vie, qui prendront même certains de ses écrits sous leur dictée. Et c'est quelqu'un, elle, qui comprend, c'est le type de femme qui comprend. Voilà, elle l'écoute et elle le comprend et elle accepte. Elle partage tout ce qu'il fait avec lui. Elle voyage, elle l'accompagne ou parfois pas. Elle l'attend. Elle fait en sorte que tout se passe bien. Elle a planifié son entourage. Elle fait en sorte que la maison fonctionne, etc. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'acheter effectivement une grande demeure sur les hauteurs de Salzbourg. Ce à quoi Julien Green faisait allusion dans l'extrait que vous avez passé, qui était donc ce qui est ce lieu qui s'appelle le Kapuzinerberg. Et donc Frédéric, elle se débrouille de manière à ce qu'il puisse travailler sans être dérangé, à ce que ils prennent connaissance des lettres d'une certaine manière sans que ça le choque trop. Enfin, elle arrange tout, on va dire.
Et lui, en échange, il pense qu'elle est hystérique, et puis il ne lui cache pas ses passions. Il lui dit, tu sais, chérie, hier soir qui j'ai rencontré, et elle écoute jusqu'à un moment donné où bon, finalement, elle trouve que quand même c'est un petit peu trop.
Et d'ailleurs, quand il la rencontre, il est très très occupé en France avec une jeune modiste qu'il appelle Marcel et dont qui aurait été peut-être même enceinte de lui à un moment donné parce qu'ils sont très très excités tous les deux à cette nouvelle, donc Marcel et Zweig, et ils choisissent même de donner un prénom à l'enfant qui ne verra pas le jour, sans qu'on connaisse bien les détails de ce qui s'est passé. Et cette modiste en tous les cas est quelqu'un vers lequel il revient très très souvent, et même quand une fois son mariage déclaré avec Frédéric et parfois, quand ils sont tous à Paris, elle doit supporter les absences de son mari qui va rendre visite à Marcel.
Jusqu'à ce que finalement, il la quitte définitivement avec la secrétaire que sa femme Frédéric avait engagée.
Voilà. Voilà, elle pousse même l'abnégation jusqu'à lui chercher la secrétaire qui va devenir sa deuxième épouse.
Un nouvel extrait du Monde d'hier, l'autobiographie de Stefan Zweig, lu encore par Jérôme Kircher.
Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses. Une somme d'événements, de catastrophes, et d'épreuves telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareil, pour que j'aie le courage de commencer une histoire qui eut pour personnage principal, plus exactement pour centre, ma propre personne. Oh, rien n'est plus éloigné de mon dessein que de me mettre ainsi en évidence, sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule. Et ce n'est pas tant mon propre destin que je raconterai ici que celui de toute une génération. Notre génération. Singulière. Chargée de destinées comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire. Bouleversée par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agiter notre terre européenne. Et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège. En ma qualité d'Autrichien, de juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par trois fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence. Elles m'ont détaché de tout mon passé et précipité dans le vide. Mais je ne me plains pas, non. Le sans-patrie, en un certain sens, se trouve libéré. Et celui qui n'a plus d'attache n'a plus d'égard à avoir pour personne, ni pour rien.
Alors on pourrait croire, en écoutant cet extrait, que Stefan Zweig s'intéresse à la politique, mais en réalité ce n'est pas tellement la politique qui l'intéresse, c'est l'histoire qui va bousculer sa vie, mais l'engagement, les feux de l'actualité, le quotidien de ce qui se passe dans le monde ne l'intéresse pas tellement.
Non, alors il est quand même confronté à avant d'arriver à la période de l'exil, etc., il est confronté à la Première Guerre mondiale, hein. Il va être... surpris par la Première Guerre
mondiale. Il ne l'a pas vu venir.
Il ne l'a pas vu venir du tout. D'ailleurs, il se trouvait en Belgique, chez Vera Rennes, quand c'est survenu. Et au départ, il avait des sentiments plutôt pro-germaniques. C'est-à-dire, il trouvait qu'il fallait essayer de faire des choses plutôt patriotiques, etc., jusqu'à ce qu'il se ressaisisse assez rapidement.
Il a même jusqu'à excuser le bombardement de la cathédrale de Reims.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est une des raisons. Il va se fâcher avec Vera Rennes pour cette raison, parce que Vera Rennes, de son côté aussi, lui publiait des poèmes extrêmement engagés et contre les Allemands. Et donc, ça va signer la fin des relations entre deux. Donc au départ, il se lance un petit peu dans cette mêlée-là, jusqu'à ce qu'il y ait une réflexion de sa part et qu'il décide justement de refuser ce miroir qui est tendu et de chercher à cette Europe imaginée et rêvée qui n'existe pas encore, en tous les cas, qu'il appelle de tous ses voeux avec un certain nombre d'autres intellectuels comme Romain Rolland qu'on citait tout à l'heure. Alors après, avec l'arrivée du nazisme, c'est tout à fait une autre histoire, là. C'est pas tout la même chose. Mais c'est jamais, enfin, il voudra toujours rester dans cette même mouvance, c'est-à-dire un pacifiste, humaniste, qui ne veut pas s'engager, et ça va lui être évidemment beaucoup beaucoup reproché. On ne comprendra pas lui dont les livres sont brûlés dès 33, lui dont le visage sert à un moment donné pour la propagande nazie, c'est-à-dire on veut montrer que à quoi ressemble le visage d'un sémite, on se sert de la photo de Stefan Zweig. Il tergiverse, à un moment donné il croit qu'il n'est pas vraiment concerné, il pense qu'on a fait un amalgame en parlant d'une autre personne qui s'appelle Zweig aussi, Arnold Zweig, qui était aussi un écrivain. Il ne s'exprime pas, et contrairement à tous ses amis qui le poussent à le faire.
Et comment vous voyez ça, vous, personnellement? Est-ce que c'est la faiblesse de quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager dans le monde, qui finalement reste dans sa tour d'ivoire? Est-ce que c'est de la naïveté? Ou est-ce que c'est un pacifisme profond? Parce qu'on peut s'engager aussi pour le pacifisme.
C'est-à-dire que quand on commence à analyser ça avec loin du fracas de cette période, effectivement, je ne sais pas si on perçoit véritablement tout ce qui a pu arriver. Donc c'est toujours beaucoup plus facile pour nous de le dire, en tous les cas, une forme de lâcheté, sans doute, en tous les cas, de peur panique d'être toujours pris comme quelqu'un qui va servir une cause, ça c'est réel.
Il a peur d'être enfermé.
Oui, peur d'être enfermé. Il a cru, alors il a écrit, dans la biographie qu'il a écrit, il y en a une qui existe sur Erasme, auquel il s'est beaucoup identifié, c'est-à-dire Erasme.
Le grand européen.
Le grand européen, exactement. Et alors, comment est-ce que Erasme, enfin, l'époque évidemment n'est pas la même, mais il le voyait comme un intellectuel qui pouvait être au-dessus, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas à s'engager sur les querelles du moment, qui de toute façon sont illusoires sur une période de temps qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus importante. Donc c'est comme ça qu'il considérait sa fonction. Mais il a été pressé de toutes parts par les autres écrivains allemands qui lui demandaient vraiment de condamner le régime nazi, ce qu'il ne fera jamais. C'est pas comme ça qu'il veut intervenir, en tous les cas.
Mais lui-même est juif, est-ce qu'il est pratiquant? Est-ce qu'il a un rapport à la religion juive fort?
Non, pas fort du tout. Alors, lui, il dit que c'est un sentiment qu'il a en lui, qu'il l'habite, mais auquel il ne pense pas beaucoup plus que ça. Maintenant, si on regarde dans son œuvre, il y a quand même pas mal de nouvelles qui portent ce thème-là. Il y en a une qui s'appelle Le chandelier enterré, par exemple. Une très jolie nouvelle qui s'appelle Le bouquiniste Mendel, où il raconte l'histoire d'un vieux juif qui a essayé toujours de vendre des livres dans un café et qui va être balayé par la guerre et qu'on voit revenir, etc. Et donc c'est décrit tout ça avec beaucoup de tendresse, mais c'est pas sa famille de cœur immédiate. Enfin, c'est quelque
quoi
chose...
sa famille alors? C'est l'Europe? C'est le monde entier?
Oui, c'est le monde entier. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était sans attache. Sans attache et qui avait l'habitude, la manière dont il a fantasmé l'Europe avant qu'on mette tout ça sur papier et qu'on l'imagine évidemment beaucoup, beaucoup plus tard après la guerre, c'était effectivement le fait de pouvoir voyager sans entrave, sans papier et de pouvoir communiquer partout comme on le souhaitait. Alors c'est, à cette époque-là, c'est évidemment un souhait presque irréalisable.
De voyager ou de fuir, comme il le fait donc, vers le Brésil, vous le racontiez, ça aurait pu être les États-Unis. D'abord, il y a l'Angleterre, mais il n'aime pas tellement l'Angleterre. Il devient tout de même citoyen anglais, même si ce n'est pas évident, on ne lui donne pas son passeport tout de suite. Et puis après, donc, le Brésil, où il va finir tragiquement.
Oui, oui, oui. Là, oui, il faut juste indiquer qu'il s'est remarié, donc avec cette femme dont vous parliez tout à l'heure, qui est qui a 27 ans de moins que lui, qui s'appelle Lotte, qui lui a servi de secrétaire. C'est une jeune femme qui souffre d'asthme, et donc il y aurait pu avoir aussi une réflexion quant au climat du lieu où ils auraient pu se rendre. Je ne suis pas sûr que le climat de Petrópolis au Brésil est convenu à cette jeune femme qui souffrait vraiment terriblement.
C'est dans la banlieue de Rio.
C'est dans la banlieue de Rio, oui, oui, ça servait de résidence, de villégiature d'ailleurs à l'empereur du Brésil. Ça ressemblerait presque à l'Autriche, on va dire, sur les hauteurs. Et puis c'est certainement beaucoup plus frais que dans Rio même.
Et leur dernier jour, ils partent faire un pique-nique, je crois. Ils prennent le temps de déjeuner avant de se donner la mort.
Ah oui, c'est incroyable parce que tout a été formidablement préparé. Les livres qu'il devait rendre étaient enveloppés soigneusement. Il avait envoyé un certain nombre de courriers et puis il a écrit sa dernière déclaration, qui est très belle d'ailleurs, très émouvante.
Et qu'il envoie aussi au gouvernement du Brésil.
Oui, oui, bien sûr. Et c'est un acte de remerciement vis-à-vis du Brésil qu'il a accueilli.
Merci beaucoup, Catherine Sauva, de nous avoir éclairé sur la vie de Stefan Zweig. Et tout de suite, sur France Culture, la poésie.
Bonjour, la poésie. Tiens, on l'avait oubliée, celle-ci. La poésie, comme quoi, hein, bon, c'est pas qu'elle nous manquait, ben, elle était là, autour de nous, quoi, et elle était dans les aubes d'été pour de vrai, dans les insectes, dans la chaleur, la vue sur le mont Saint-Michel au crépuscule, la confidence des buissons, le chant du ruisseau, la pierraille, le bois mort sur les dunes, les ruines du Zinor à Dunkerque, toutes ces belles choses de la poésie, mais elle nous a pas manqué comme peuvent manquer le sucre ou la farine. Et c'est dans cette perspective d'ailleurs que, pour cette rentrée, nous vous avons préparé un programme de remise en forme poétique. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Et dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine ? Là, tout n'est qu'ordre et beauté, calme, luxe et volupté. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. La musique souvent me prend comme une mer. Poésie, ô trésor, perle de la pensée. Mais où sont les neiges d'antan ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Lorsque nous dormirons dans l'attitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau, baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Qui te rend si hardi de troubler mon bronzage ? La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Oh, combien de marins, combien de capitaines ! Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà de ta jeunesse ? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Heureux, les riches en bonne santé, la terre leur appartient. Oui, j'avais des trésors, j'en ai plein la mémoire. J'ai des banquets rêvés où l'orphelin va boire. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées quand les feux du soleil inondent la nature. Quand tout brille à mes yeux et de vie et d'amour, si je vois une fleur qui s'ouvre fraîche et pure au rayon d'un beau jour, si des troupeaux joyeux bondissent dans la plaine, si l'oiseau chante au bois où je vais m'égarer, je suis triste et de deuil me sens l'âme si pleine que je voudrais pleurer. Oui, Gérard de Nerval. C'est comme ça qu'il voit la fin de l'été, avec résignation, quand je vois sécher l'herbe de la prairie, quand la feuille des bois tombe jaune à mes pieds, quand je vois un ciel pâle, une rose flétrie. En rêvant, je m'assieds et je me sens moins triste, et ma main les ramasse, ces feuilles, ces débris de verdure et de fleurs. J'aime à les regarder, ma bouche les embrasse, je leur dis « Oh mes sœurs ». Et voilà, avec les mots viennent petit à petit les sentiments. Ben c'est ça le poème, bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème, disait Raymond Queneau. Et nous, ben nous allons continuer ensemble. Oh oui, oh c'est déjà fini. Ben, alors on sent monter la tristesse, c'est la tristesse de l'été, de la fin de l'été. On pourrait écouter Mallarmé, tristesse d'été, sur la plage abandonnée. Non, on n'a plus le temps. Mais on a tout le temps. On va faire ça cette année. Hein. Chaque semaine, un auteur pour essayer. On va continuer.
Paradise Lost, ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Nous étions aujourd'hui en compagnie de Catherine Sova qui nous a fait découvrir la vie de Stefan Zweig. Merci à elle. Je rappelle qu'elle est l'auteur d'une biographie de Zweig parue en folio Gallimard et qu'elle publie ces jours-ci un ouvrage consacré, celui-là, à Rainer Maria Rilke. C'est chez Fayard. Cette émission peut être réécoutée en podcast ou sur le site internet de France Culture. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre et réagir sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en particulier. Alors surtout, n'hésitez pas.